Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La France vient d'engranger une récolte de blé record, mais comme elle n'est pas la seule, les cours du blé sont faibles et cela pose des problèmes de rentabilité aux agriculteurs. Les producteurs américains de soja subissent les conséquences de la politique commerciale de Donald Trump et sont en train de perdre le marché chinois au bénéfice de l'agrobusiness brésilien. En Amérique latine, les pays du Mercosur viennent de signer un accord avec l'Union européenne et celle-ci a signé un autre accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui inclut des produits agricoles et provoque de nombreux débats. Au Nigeria, les autorités bataillent contre les importations de riz pour promouvoir la production locale et font jouer des règles protectionnistes. Alors, protectionnisme, régulation ou libre-échange, autosuffisance alimentaire partout où c'est possible ou généralisation des échanges agricoles internationaux, quels sont les choix, quelles sont les alternatives? Voilà les questions que nous allons soulever avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean-Yves Carfentan.
Bonjour.
Jean-Yves Carfentan, vous vivez au Brésil depuis 2002, vous êtes directeur associé d'Agrobras Consult, un bureau d'études brésilien spécialisé en investissement et marché agricole. Vous êtes membre de l'Institut Fernand Braudel, un think tank économique brésilien et l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier d'entre eux s'intitule « Brésil, les illusions perdues du naufrage au redressement », publié l'an dernier, en 2018, aux éditions François Bourin. J'ajoute, pour vous situer un peu plus précisément, que vous défendez ce qu'on appelle ici en France l'agro-business brésilien, même si vous n'appréciez pas beaucoup le terme, vous me l'avez dit tout à l'heure, et que vous fréquentez beaucoup la forêt amazonienne. On en parlera dans cette émission. Avec nous également dans ce studio, Thierry Pouche, bonjour.
Bonjour.
Thierry Pouche, vous êtes chef du service économique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire Regard de l'université Reims-Champagne-Ardennes. Vous avez écrit en 2017 avec Jean-Marc Chaumet un livre intitulé « La Chine et la question alimentaire, importer ou produire son alimentation » et c'est publié aux presses universitaires de Rennes. Et je termine ce premier tour de table par vous, Frédéric Courleux, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Courleux, vous êtes agroéconomiste et directeur des études du think tank Agriculture Stratégie. Des agriculteurs, nous en entendrons au cours de cette émission avec des reportages de nos correspondantes et reporters Audevilliers-Moriamé à Buenos Aires, Pascal Guéricola à Québec et Ariane Gaffuri ici à Paris. Thierry Pouche, en quoi un accord international comme celui entre l'Union européenne et le Mercosur concerne-t-il l'agriculture ?
Tout simplement parce que, comme les précédents accords que l'Union européenne a signés avec l'Ukraine, avec le Canada, le secteur agricole a été intégré dans les négociations. Il y a toujours des discussions lorsqu'on lance des négociations. Alors celles avec le Mercosur ont commencé il y a une vingtaine d'années, elles se sont interrompues, elles ont
repris. Alors le Mercosur, il faut préciser, Brésil, Argentine, Uruguay.
Et Paraguay, et le Venezuela en faisait partie, mais il a été exclu pour des raisons politiques. Donc on se pose toujours la question, lorsqu'il y a des partenaires qui négocient, si on intègre toute ou partie du secteur agricole. Il avait été question de traiter de façon très à part la viande bovine entre l'Union européenne et le Mercosur, et puis finalement elle a été intégrée. Les contingents qui ont été accordés étaient plus ou moins importants, finalement ils le sont, mais moins que ce qu'aurait souhaité le Brésil. Donc le secteur agricole, d'une certaine façon, quand on remonte aux accords du GATT, les accords de Marrakech en 94, ont intégré le secteur agricole et on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'économie mondiale, l'agriculture est en quelque sorte banalisée. Ce n'est plus, elle ne bénéficie plus comme par le passé d'un régime d'exception. On la traite comme n'importe quelle autre marchandise et c'est ce qui explique d'ailleurs les réactions parfois des agriculteurs.
Mais est-ce que ça veut dire que tous les échanges agricoles internationaux sont régis par des accords? C'est une économie organisée, bureaucratisée, réglementée, l'économie agricole internationale?
les accords de Marrakech de 94 avaient abouti.
C'était des accords internationaux.
Ça, c'était des accords multilatéraux, voilà, effectivement. Mais devant l'essoufflement de l'Organisation mondiale du commerce qui a succédé au GATT, devant l'impasse dans laquelle cette institution se trouve, notamment depuis le déclenchement du cycle de Doha en 2001, 18 ans après, il n'y a toujours pas d'accord multilatéral. Précisément parce que le secteur agricole peut faire blocage pour certains pays. L'Inde, par exemple, à deux reprises, fait échouer la négociation. Parce qu'il y a quand même une règle absolue qui est extrêmement contraignante à l'OMC, c'est la règle de l'unanimité. Or, les quelques 165 pays membres de l'OMC doivent se mettre d'accord. Les intérêts sont tellement divergents entre ces pays qu'on a énormément de mal à aboutir à un accord. Donc, on passe par la voie bilatérale maintenant, ou des voies régionales, pour essayer de continuer à échanger des produits agricoles et alimentaires, au-delà des produits manufacturés, bien évidemment.
Alors, Jean-Yves Carfentan, vu du Brésil où vous vivez, est-ce que cet accord du Mercosur est un grand pas en avant pour l'économie, pour l'agriculture brésilienne ?
Alors, permettez-moi tout d'abord de parler d'autre chose que de l'agriculture. Les pays du Mercosur, et singulièrement le Brésil, vont être amenés, si cet accord prend forme et se met en place, à ouvrir leur marché de produits industriels et leur marché de services. Probablement au pire moment. Cela aurait été beaucoup plus facile il y a une vingtaine d'années, puisque l'industrie brésilienne a vu sa compétitivité se dégrader depuis 20 ans de manière très spectaculaire. Et donc il va y avoir un effort considérable si les choses se mettent en place, et des conséquences très problématiques pour un certain nombre de services hors agriculture, télécommunications, finances par exemple, des secteurs sur lesquels l'Europe est très compétitive, certains secteurs industriels qui intéressent notamment l'économie allemande et d'autres, ça fait partie du package, si j'ose dire. En matière agricole, c'est très important pour le Brésil, notamment dans la conjoncture actuelle, étant donné que après plusieurs années de croissance extrêmement modeste, pour ne pas parler de récession continue, l'agriculture et l'ensemble des activités liées à l'agriculture sont pratiquement le seul moteur qui fonctionne et qui connaît une certaine croissance dans l'économie brésilienne, notamment tirée par les perspectives qu'offrent un certain nombre de marchés extérieurs, et singulièrement la Chine.
Frédéric Courleux, est-ce que l'agriculture est une locomotive comme au Brésil, pour de nombreux pays sur la planète? Est-ce que c'est encore un secteur économique important dans la masse des échanges internationaux?
L'agriculture est un secteur important dans la plupart des pays, y compris en Europe. L'Europe est un important pays producteur pour pas mal de denrées. Malheureusement, voilà, depuis les émeutes de la fin de 2007-2008...
En Haïti, en Afrique...
Et les répliques...
Il n'y en a pas eu en Europe.
Et les répliques en Tunisie aussi, dans le pourtour méditerranéen, c'était assez compliqué. 2010-2012, avec la sécheresse aux États-Unis, la sécheresse en Russie. On s'attendait à cette époque-ci, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, à avoir des prix agricoles qui allaient se maintenir et qui allaient rester très hauts. La conséquence en Europe, c'est qu'on a abandonné la plupart de nos outils de régulation qui contrôlaient jusqu'alors la surproduction chronique à laquelle on était confronté. Le constat est que maintenant, on est le super cycle des matières premières n'existe plus. On est en train de se réhabituer, y compris dans les organisations internationales, à reparler de cette tendance à la baisse des prix agricoles, qui fait que, très concrètement, pour beaucoup de secteurs agricoles dans de nombreux pays, on est en situation de crise. Et face à cette situation de crise, face à ces prix internationaux de dumping, de nombreux pays renforcent leur politique agricole, comme l'Inde, comme la Chine,
mais aussi comme les États-Unis. Qu'appelez-vous renforcer la politique agricole, ça veut dire quoi?
Alors, il y a différents leviers. Par exemple, en Chine, en Inde, les prix des céréales sont beaucoup plus élevés que le prix international. En Chine, on est sur des niveaux de prix du blé à quasiment deux fois le prix international. Ils se protègent de ce prix de dumping pour pas mettre sous pression leur campagne avec des droits de douane. Aux États-Unis, c'est d'autres mécanismes. On a beaucoup entendu parler des mesures de crise qu'a déclenché Donald Trump, une nouvelle enveloppe de 16 milliards milliards après celle de 12 milliards de l'année dernière. Mais à côté de cela, il y a des outils de régulation des revenus avec des aides qu'on appelle contracycliques, donc qui sont variables en fonction des prix, qui ont été mis en place et renforcés pour les céréales et pour le lait, par exemple. Donc, pour répondre à votre question, on est dans une situation où l'agriculture est un secteur important sur tous les continents. Malheureusement, elle est sous pression de prix de dumping au niveau international.
Thierry Pouche, au début de l'été, on a assisté en France à une levée de boucliers contre l'accord signé entre l'Union européenne et le Mercosur. Le président Macron, on va l'entendre tout à l'heure, s'en est même distancié. Qu'est-ce qui provoque en France en particulier cette levée de boucliers ?
La levée de bouclier, elle a été déclenchée par l'accord politique qu'il y a eu entre l'Union européenne et le Mercosur, mais aussi par la ratification par l'Assemblée nationale de l'accord sur le CETA. Et dans les deux cas, on est exposé à la pénétration du marché européen par des contingents, notamment en viande, accordés au Canada. La viande bovine, c'est 67 000 tonnes. Pour le Mercosur, c'est 99 000 tonnes. Plus un contingent antérieur appelé contingent Hilton de 66 000 tonnes.
Donc, contingent Hilton ?
Hilton, oui, ce qui est lié à des accords commerciaux antérieurs, mais là, les droits de douane ont été réduits à zéro. Donc ça commence à faire beaucoup, parce que si on agrège l'accord avec l'Ukraine, ce qui était de 12 000 tonnes de viande bovine, on voit bien que là, il y a un secteur qui peut être fragilisé. Pour être peut-être encore plus concret, ça va porter sur des morceaux de bœuf, notamment la loyaux, dont les restaurateurs en Europe, sont quand même, et en France en particulier, sont quand même très à la recherche et très friands pour satisfaire les clients de leurs restaurants. Si vous agrégez un peu toutes ces importations à travers les contingents, vous allez avoir des importations qui vont être supérieures à la production européenne d'aloyaux à partir de races à viande. Donc on comprend que, étant donné les différentiels de compétitivité qu'il y a entre le Canada et l'Europe, entre les pays du Mercosur et l'Union européenne, il puisse y avoir quelques réactions. D'autant plus que à chaque fois est posée sur la table la problématique des conditions de production de ces produits agricoles et notamment de ces produits carnés. Donc les conditions d'élevage, est-ce qu'il y a des hormones, est-ce qu'il y a de la ractopamine,
des hormones de croissance.
Ouais. Est-ce qu'il y a pour les produits végétaux des intrants qui sont strictement interdits en Europe? Au Canada par exemple, on utilise l'atrazine qui est depuis très longtemps interdite en Europe. Donc là, se pose le problème de savoir, il y a non seulement les quantités qui ont été accordées, mais il y a aussi les problèmes sanitaires, environnementaux qui sont posés et qui pourraient menacer, selon les consommateurs, notre mode de consommation. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions de la part des agriculteurs qui ont évidemment entrepris des actions auprès des permanences de parlementaires.
Alors, au contraire de ce qui se passe en France, en Argentine en particulier, cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur est salué. Comme au Brésil, le principal moteur de l'économie argentine, cet accord est considéré comme potentiellement très favorable. Écoutez ce reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Audevillier-Moriamé à Buenos Aires.
Gustavo Idigoras est le président de la Chambre argentine d'exportateurs de céréales. Il estime que l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Mercosur représente une grande avancée pour l'Argentine.
Cet accord a une valeur symbolique très importante et à terme il aura aussi un impact économique significatif. C'est l'occasion pour le Brésil et l'Argentine d'exporter du maïs. Pour nous, il serait très intéressant aussi de vendre des marques argentines dans les supermarchés d'Europe. De l'huile de tournesol d'abord, et de l'huile de soja.
Pour le secteur de la viande, autre grande spécialité de l'agro-industrie argentine, cet accord est un premier pas. Mario Ravettino est le président de l'Association des exportateurs de viande.
Un accord est toujours bienvenu, et c'est très positif d'avoir accès à un marché commun aussi important que celui de l'Union européenne. Mais nous aspirions à beaucoup plus. Nous considérons que le quota de viande argentine destiné à l'exportation est infime.
Il estime que cet accord offre surtout à l'industrie argentine l'occasion de se perfectionner.
Nous devons travailler pour aligner la technologie et la productivité des pays du Mercosur au niveau de haut développement des pays de l'Union européenne.
En Argentine, les attentes sont grandes vis-à-vis de cet accord. Seulement, depuis quelques semaines, une menace vient assombrir ce tableau.
Je me dois, au nom de la France, de m'assurer que les intérêts, nos principes, nos valeurs, ce pour quoi on s'engage, soient défendus. Donc, en l'état, je ne signerai pas le Mercosur.
Emmanuel Macron menace de ne pas ratifier l'accord de libre-échange, une mesure de rétorsion contre le Brésil que le président français accuse de ne pas tenir ses engagements en faveur de l'environnement. Mais pour Mario Ravettino, cette menace ne devrait pas affecter la signature de l'accord.
Depuis le début des négociations, le gouvernement français cherche des arguments pour empêcher la signature de l'accord. Mais je crois que l'Union européenne est bien consciente de l'importance de cet accord et que l'Union est convaincue qu'il faut avancer sur cette question.
Gustavo Idigoras, de la Chambre des exportateurs de céréales, estime que l'Argentine, en proie à une grave crise économique depuis un an et demi, a particulièrement besoin de cet accord.
Cet accord pourrait encourager des Européens à investir fortement dans le secteur alimentaire de l'Argentine, car les coûts de production sont moins élevés ici. Mais pour garantir ces investissements, il faudrait que le pays ait une certaine stabilité économique, qu'il y ait une baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. Nous allons voir ce qu'il se passe avec le prochain gouvernement.
Les élections générales ont lieu le 27 octobre en Argentine. Après 2 ans de récession, le secteur industriel espère que le prochain gouvernement remette le pays sur le chemin de la croissance.
Aude Villiers-Moriamé à Buenos Aires qui signe ce reportage me signale par ailleurs une bonne nouvelle pour l'économie du pays qui va pouvoir exporter de la farine de soja vers la Chine. Un accord a été signé cette semaine entre les deux pays, accord qualifié d'historique selon le président argentin Macri et qui devrait entrer en vigueur dès l'an prochain. Jean-Yves Carfentan, je vous voyais sourire ou hausser les épaules, je ne sais trop, en écoutant ce reportage, est-ce qu'on pourrait faire le décalque et échanger les mots Argentine pour Brésil et faire le même reportage à São Paulo, est-ce que la position dans les deux pays vis-à-vis de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est la même ?
Non, ce sont deux pays voisins. Nous avons les voisins qui nous imposent la géographie, mais ce sont deux histoires profondément différentes, très lointaines et même très proches. La situation économique argentine est bien plus préoccupante que la situation économique brésilienne. Et le scénario politique, comme vous le savez, en Argentine depuis maintenant plusieurs années, est un scénario avec un gouvernement plutôt d'orientation libérale, alors que le scénario brésilien depuis octobre 2018 et janvier 2019 est un scénario que je n'ose pas qualifier car personne à l'heure actuelle ne peut bien dire où va la politique brésilienne. Je crois que la grande différence aussi, c'est que le Brésil a mal géré jusqu'à présent, et notamment dans les dernières étapes récentes, sa politique environnementale, ses atouts environnementaux, qui sont considérables. Nous avons une attitude extrêmement brouillonne, pour ne pas dire suicidaire par rapport à ces questions. Nous donnons des arguments servis sur un plateau à Monsieur Macron, alors que notre attitude devrait être de dire, nous avons conscience de nos faiblesses, nous avons conscience de nos atouts, nous savons faire pour régler les problèmes et pour mettre en adéquation notre politique avec nos engagements. Au lieu de tenir ce discours qui serait le discours d'une diplomatie efficace, nous tenons un discours d'autruche en faisant comme si les problèmes n'existaient pas et comme si la dimension environnementale n'était pas essentielle.
C'est-à-dire que le président Macron a raison de s'en prendre à la politique amazonienne de Bolsonaro ?
Il a trouvé un argument de facilité. Il a besoin sans doute de rassurer l'électorat agricole européen, français à la veille d'échéances électorales relativement importante pour sa formation. Il utilise des arguments de ce type. Cela facilite extraordinairement aussi le jeu politique de Bolsonaro de l'autre côté, puisque le président Macron a été jusqu'à dire que l'Amazonie, par exemple, était un bien universel. Chatouiller les Brésiliens sur ce type de chapitre, c'est faciliter le gouvernement en place, qui utilise l'accord nationaliste pour essayer de dire, voyez, le problème environnemental, c'est une question inventée par les Occidentaux, pour une fois encore, réduire... éliminer notre souveraineté sur la région.
Mais il y a quand même un point de vue extrêmement divergent entre ce qu'on entendait dans le reportage d'Aude Villiers-Moriamé sur les exportations vers l'Europe et ce que Thierry Pouche et Frédéric Collot nous disaient tout à l'heure sur le regard qu'on porte en France, en particulier sur ces exportations. Thierry Pouche, il y a un antagonisme là entre les milieux agricoles des deux rives de l'Atlantique.
Il y a un antagonisme entre les milieux agricoles des deux côtés de l'Atlantique. comme il y en avait eu à une certaine époque lorsqu'on négociait avec les États-Unis sur le TAFTA. Mais il ne faut pas oublier que il y a aussi des antagonismes au sein même de l'Union européenne. La réaction de Monsieur Macron a été très vite contrecarrée par les propos de son homologue, la chancelière allemande, qui disait oui, peut-être, mais la puissance des intérêts industriels allemands ne doit pas être minimisée pour autant. D'ailleurs, pour le Brésil, c'était aussi un point de blocage. Ils voulaient protéger leur industrie automobile naissante. Bon, il y a eu un accord, mais Madame Merkel a bien dit qu'on pourrait passer outre cet aspect environnemental pour que l'Allemagne puisse exporter. Et on voit bien dans la situation de l'industrie allemande aujourd'hui, de l'industrie automobile en particulier, qui connaît, qui frôle la récession, l'intérêt qu'il y a à ratifier assez vite cet accord. Et j'ajoute justement un point important qui est parfois passé sous silence, quelles vont être les modalités de cette ratification ? Pour le CETA, on a eu une ratification mixte par le Parlement européen, puis maintenant par les parlements nationaux et régionaux. Maintenant, est-ce que la commission qui va se mettre en place à partir du 1er novembre ne va pas passer par une ratification simple, c'est-à-dire uniquement par le Parlement européen, ce qui là, du coup, empêcherait M. Macron de ne pas signer cet accord, puisque ça passerait par le Parlement européen uniquement.
Alors, on verra bien ce qui va se passer sur cet accord avec le Mercosur, mais vous parliez à l'instant, Thierry Pouche, du CETA, donc l'accord signé avec le Canada. Et paradoxalement, les agriculteurs canadiens semblent faire les frais de ce traité signé avec l'Union européenne. L'entente, l'accord profite en effet notamment aux fournisseurs de services financiers canadiens qui auront davantage accès au marché européen. Par contre, cet accord oblige aussi le Canada à ouvrir davantage ses frontières aux fromages européens, dont une bonne partie était jusqu'à présent frappée d'une taxe. 17 000 tonnes de ces produits devraient bientôt arriver dans les rayons des magasins canadiens, particulièrement au Québec. Un coup dur pour les producteurs laitiers de cette province francophone, déjà confrontés eux aussi à la baisse du prix du lait. Frédéric Colleux, c'est une allusion à ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Pascal Guéricola à Québec.
Notre créneau, c'est pas du lait. Lait, yogourt, fromage.
La matière première des produits laitiers vendus à la fromagerie Filium n'a que la route à traverser pour se retrouver dans les cuves de fabrication. Une idée du couple que forment Annie Clarence et Patrick Soucy, voilà, qui ont ouvert leur exploitation agricole non loin de la ville de Québec il y a 11 ans.
Avec la transformation, nos fromages de qualité, notre yogourt, moi j'ai parié qu'on va réussir.
Pour faire face à la baisse du prix du lait, depuis 5 ans, les deux producteurs misent sur une vente sur place de leur lait transformé. Déjà, les différentes ententes internationales, signées notamment avec les États-Unis et des pays du Pacifique, ont provoqué une baisse de leurs revenus de vente de lait brut. Le couple a donc dû faire des choix difficiles. Annie Clarence.
Soit qu'on ferme la ferme, on la vende, ou soit qu'on pousse plus loin. On s'endette encore plus pour essayer de s'en sortir. Fait qu'après 10 ans de laisser tout tomber pour parce que le prix du lait avait chuté, on trouvait que c'était pas ce qu'on voulait. On s'est dit, on va travailler encore plus fort, puis on va réussir malgré la baisse du prix du lait.
À une cinquantaine de kilomètres de là, sur l'île d'Orléans, Martin Vézina vit aussi une baisse des revenus tirés de son troupeau de vaches laitières.
C'est surtout notre capacité à faire face aux imprévus qui a changé. Fait qu'on est beaucoup plus prudent face aux prochains investissements. Nous, on avait un projet de robotique qui était sur la table, assez bien avancé. Mais on a calculé qu'on a perdu environ 25 000 $ de revenus. Ça nous a refroidi. On arrive dans un entonnoir à l'entreprise ici où le confort des vaches n'est pas optimal. Puis on se demande si ça vaut la peine d'investir ou ben donc on laisse ça comme ça, on attend.
Les syndicats agricoles calculent que l'entente avec l'Union européenne représente une perte de près de 8,4% pour la production laitière canadienne, soit l'équivalent de 1200 fermes laitières moyennes au Québec. Martin Vézina.
Puis on a donné, le traité européen, oui, on parle de 17 000 tonnes de fromage, là. Mais là, après ça, on a eu le Transpacifique. Il a été signé. On a donné 3,25%, je pense. Puis là, bon, on vient de donner la même chose aux Américains. Ça va donner 10% moins de production sur une année. T'sais, une ferme comme chez nous, là, c'est en haut de 40 000 $ par année. Là. C'est énorme. Là.
Confronté à la grogne des agriculteurs, le gouvernement canadien s'est engagé à compenser une partie de leurs pertes financières au cours des 8 prochaines années.
Un reportage signé Pascal Guéricola au Québec. C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons échanges agricoles internationaux avec trois invités. Thierry Pouche, chef du service économique des chambres d'agriculture de France. Frédéric Courle, directeur des études du think tank Agriculture Stratégie. Et Jean-Yves Carfentan, directeur associé d'Agrobras Consult à São Paulo au Brésil. Thierry Pouche, ces producteurs de lait québécois, ils souffrent, ils vont souffrir. Vos exportations à vous, agriculteurs français, vont les plonger dans la panade.
Et oui, c'est le problème d'un accord de libre-échange, c'est que, contrairement à ce que on peut prétendre, ne fait pas qu'un jeu à somme positive. C'est-à-dire tout le monde va obtenir un gain de l'accord de libre-échange. Il va y avoir un jeu à somme nulle. Ce que vont gagner les uns sera peut-être perdu par les autres. Donc, ces éleveurs laitiers canadiens, qui sont quand même historiquement très protégés par un système de quotas au Canada, vont être obligés d'ouvrir leur marché non seulement aux productions fromagères en provenance d'Europe, ce qui va représenter 4% de leur consommation intérieure, ce à quoi s'ajoute avec le traité transpacifique duquel M. Trump s'est retiré, mais il continue donc à rentrer en vigueur. Ils vont ouvrir leur marché à hauteur d'un peu plus de 3% aux producteurs de lait étrangers, donc l'industrie de la transformation
mais
canadienne.
Mais lesquels, transpacifiques ?
Ça peut être des producteurs néo-zélandais, par exemple. Donc on voit bien là qu'il y a un réel problème pour les agriculteurs dans ces accords de libre-échange, mais en même temps, ça a été dit dans le reportage, les agriculteurs, depuis des mois, ont fait pression sur leur gouvernement fédéral pour obtenir quand même des aides compensatoires. Et ils ont obtenu, sur la période, 1,7 milliard de dollars.
De dollars canadiens.
Donc il y a quand même des compensations. Ce qui, là, de ce point de vue, contraste considérablement avec la situation européenne, où il n'est pas prévu d'aides compensatoires, où lorsqu'elles le sont, elles sont d'une telle faiblesse que ça ne peut pas couvrir les pertes éventuelles.
Frédéric Courle, est-ce qu'il faut généraliser le libre-échange dans l'agriculture internationale, dans les échanges agricoles internationaux, ou est-ce qu'il faut encadrer ? Parce que c'est assez paradoxalement, on a des accords de libre-échange. Alors on pourrait se dire, le libre-échange, tout le monde exporte ce qu'il veut. Et pourquoi faut-il des accords de libre-échange ?
Alors, juste avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la situation au Canada. Il faut tout de même rappeler que les Canadiens n'ont pas complètement désarmé leur politique agricole en matière laitière. Ils ont gardé leur système de quotas qu'ils ont adapté à la marge pour pouvoir réduire les effets négatifs du CETA. Et ils ont maintenu aussi un système de commercialisation collective qui fait que les marges au sein de la filière sont réparties de manière assez harmonieuse. Concrètement, au niveau d'une province, il y a une seule négociation entre tous les producteurs d'un côté et de l'autre, tous les transformateurs. Et on arrive comme ça à pouvoir avoir un système qui permet de dépasser les déséquilibres dans les rapports de négociation qu'on connaît bien dans le secteur agricole. Et j'ajouterais aussi que il vous aura pas échappé que Lactalis, géant mondial du lait, a récemment racheté, ça a été confirmé au début juillet, un des gros acteurs du fromage canadien, la branche laitière de Kraft Heinz. Pourquoi ? Pour pouvoir récupérer en fait les quotas d'importation que le gouvernement canadien avait octroyé à ses producteurs de fromage, de manière à récupérer pour Lactalis la rente du quota d'importation.
C'est un contournement du protectionnisme ou des barrières protectionnistes ?
C'est ça. Et du coup, ça montre bien que, au final, il faut se poser la question, à savoir, y compris nous en France, si l'intérêt de ces accords-là sont pour les producteurs dans nos campagnes ou s'ils sont plutôt pour nos industriels. Dans les campagnes françaises, le CETA n'est pas vu comme quelque chose de positif sur le secteur laitier, dans la mesure où tout ça nous emmène davantage vers de la dérégulation. Et on sait que la dérégulation fait que la valeur ajoutée fuit les campagnes montagne, fuit les cours de ferme et va davantage dans l'aval des filières.
C'est-à-dire vers la transformation.
Vers la transformation. C'est pour ça que dans nos analyses sur le commerce international, il faut à un moment ou à un autre remettre les acteurs importants que sont les firmes multinationales, qui sont bien évidemment très bien placées pour valoriser ces accords-là. Et d'ailleurs, on peut remarquer que dans ces accords bilatéraux, on donne beaucoup de droits aux entreprises et on ne parle jamais des devoirs des entreprises vis-à-vis d'enjeux importants tels que la sécurité alimentaire. Alors, pour répondre à votre question sur le libre-échange en agriculture. Le constat est que jusqu'à la fin des années 80, on a traité les sujets agricoles à part du mouvement du GATT et que très concrètement, la discipline qu'on a mis en place à l'époque, fin des années 80, début des années 90 et qui a été gravée dans le marbre de l'OMC dans l'accord agricole qui régit toujours les règles agricoles, nous a conduit à la crise alimentaire de 2007-2008. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on s'est dit on s'est un peu fourvoyé en croyant qu'il suffisait de réduire les distorsions, de réduire les politiques pour que les marchés reviennent à l'équilibre. Or, on le sait bien, les marchés agricoles sont structurellement instables. Il suffit de pas grand-chose pour faire flamber les prix. Et inversement, quand l'offre a répondu à la demande, les stocks sont reconstitués et les prix ne sont pas à l'équilibre, mais à un niveau de dumping. Donc, il s'agit pas d'être contre les échanges. On a besoin d'échanges, y compris pour la sécurité alimentaire. La question est de savoir comment on met en place davantage de coopération pour traiter les échanges internationaux comme un bien commun pour lequel il faut assurer un minimum de régulation, un minimum de règles communes pour éviter les excès. Et aujourd'hui, force est de constater, 10 ans après la crise alimentaire 2007-2008, le logiciel international, le logiciel mondial sur ces sujets-là à l'OMC n'a pas vraiment évolué et malheureusement, on est en train de préparer de prochaines crises.
Jean-Yves Carfantan, c'est votre point de vue ? On est en train...
Je sens qu'on est un peu dans l'abstraction. Je m'explique. J'ai eu l'occasion d'être praticien du commerce international. Dans le secteur de la viande. C'est-à-dire que j'ai fabriqué, avec des distributeurs européens, des circuits d'importation de viande en provenance du Brésil. J'ai fabriqué, avec l'entreprise Carrefour, des circuits d'importation de produits fourragers, comme par exemple certains types de soja pour les filières d'élevage en France, garantie non OGM par exemple. En plus de la régulation publique, quand elle existe, il y a toute une régulation privée qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que la viande que vous allez faire venir du Brésil, par exemple, pour répondre à la demande d'une chaîne de restauration collective ou d'un grand distributeur. Moi, j'ai travaillé pour Tesco et Sainsbury en Grande-Bretagne. C'est une viande dont toute la filière va être organisée par le client final, c'est-à-dire en l'occurrence les distributeurs européens. Et ils vont imposer à tous les acteurs de la filière, de l'éleveur qui fait du naissage, en passant par l'éleveur qui fait de l'engraissement, puisque c'est séparé au Brésil, en passant par l'abatteur, en passant par les opérateurs logistiques, toute une série de réquisitions qui sont le décalque des cahiers des charges qu'elles appliquent sur les filières européennes. Parce que aucun acteur économique, notamment après les crises alimentaires qu'a connues l'Europe, notamment en Grande-Bretagne, les histoires de vaches folles par exemple, aucun opérateur importateur européen, notamment dans la grande distribution ou dans la restauration, ne va se risquer à des problèmes commerciaux, des problèmes de vente, etc. Donc c'est organisé. Moi j'ai travaillé pour Zandbergen. Zandbergen, c'est un opérateur hollandais qui est un des plus gros utilisateurs des quotas Hilton, qui sont essentiellement des viandes argentines. Je vous prie de croire que Zandbergen ne négocie pas avec des fournisseurs argentins en se contentant d'appliquer les règles du GATT ou les règles des politiques commerciales de l'Union européenne. Il y a en plus des régulations privées qui sont extrêmement importantes.
C'est-à-dire concrètement les
acheteurs... Sur les questions sanitaires, sur les questions... la viande, par exemple, que Tesco achète au Brésil, c'est une viande biologique. Toute la certification de filière biologique est faite par des organismes de certification européens. On ne peut pas utiliser les organismes de certification brésiliens. Les convois sont plombés dès le départ de l'abattoir. Il ne s'agit pas de courir des risques sur la confusion du produit. Il y a toute une organisation et une régulation qui est introduite par les opérateurs privés et qui fait aussi partie du jeu. C'est pas parce que les États se réunissent et disent on va faire un accord de libre-échange que les produits circulent tout seuls. Il faut qu'il y ait des demandes et sur les filières qui se mettent en place, il y a des règles privées, des conventions qui s'appliquent. Donc il faut aussi parler de ces régulations-là.
Oui, Frédéric Courleux.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Monsieur Carfontan.
Vous étiez abstrait, disiez-vous, disait Jean-Yves Carfontan.
Il y a quelques sujets.
Nous étions abstraits.
Le concept de d'avantage comparatif est très abstrait. On est là ici pour parler d'économie, donc on a besoin de manier ces concepts-là. Malheureusement, ce concept de et cette notion d'avantage comparatif, les économistes de la nouvelle économie géographique l'ont bien montré. Ça marche quand aucun facteur n'est immobile, n'est fixe. Ça marche encore quand un facteur est fixe. Malheureusement, ça ne marche plus. Théorie des avantages comparatifs quand deux facteurs sont fixes. Et c'est bien le cas en agriculture où on a le travail et la terre qui, par définition, sont fixes. Pour revenir sur le Brésil et être plus concret, il y a tout de même un sujet sur les abattoirs dans un certain nombre de ces pays qu'il faut pas nier. Il y a eu notamment des visites de députés européens il y a encore l'année dernière qui ont montré quelques lacunes. On va pouvoir en revenir. Mais surtout, alors vous avez raison sur les cahiers des charges de la grande distribution. Malheureusement, on sait bien que la grande distribution n'est pas un système vraiment très concurrentiel et il impose des prix à la baisse et donc il impose un partage de la valeur ajoutée qui est défavorable au maillon de la production primaire et qui donc met ce maillon-là sous pression. Et étant sous pression, il va avoir du mal à répondre aux enjeux climatiques et environnementaux tout seul. Et juste pour finir, si les supermarchés, notamment européens, s'intéressent à ces questions de standards privés, c'est pas forcément le cas pour les importations de soja en provenance notamment d'Amérique du Sud où en Europe aujourd'hui on ne contrôle pas les résidus de pesticides présents dans l'alimentation animale. Donc on est dans un problème de cohérence et le président Macron l'a bien souligné. D'un côté, on veut réduire voire interdire l'usage du glyphosate en Europe, de l'autre côté, on importe et on a une très forte dépendance protéinique à du soja dont la culture a largement recours à cette molécule, le glyphosate. Donc, il faut comprendre les aspirations de nos agriculteurs européens qui, d'un côté, se voient retirer certains facteurs de production, les pesticides, qu'ils utilisent non pas pour le plaisir, mais pour baisser leur coût de production. Et de l'autre côté, on les met en concurrence frontale avec des producteurs qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et qui plus est, ces agriculteurs français se trouvent désemparés face à une politique agricole qui n'est pas aussi réactif que ce qui se passe au Canada, on l'a vu dans le reportage, ou aux États-Unis où on met des aides d'urgence. On est en crise depuis 5 ans, donc ouvrir des contingents supplémentaires au sucre qui est en crise ou à la viande bovine qui est en crise est considéré à leurs yeux comme une provocation.
Jean-Yves Carfontan, je vous voyais réagir vivement à ce que disait...
Non, parce que je sais, le circuit qu'ont fait les députés européens au Brésil, c'est quelque part quelque chose de scandaleux. Je sais les personnes qu'ils ont rencontrées et les personnes qu'ils n'ont pas voulu rencontrer. Donc, c'est des missions qui sont d'un résultat relativement problématique. Parce qu'effectivement, si on trouve ce qu'on a envie de chercher, et si on ne voit pas ailleurs... là où ça peut éventuellement gêner le protocole de recherche qu'on avait au départ, c'est quand même un peu compliqué en termes d'honnêteté intellectuelle. Et il y a eu aussi une mission des députés français, je sais qu'ils ont rencontré les attachés agricoles à Brasilia, essayaient de leur faire voir autre chose, mais ils avaient décidé qu'il y avait un certain nombre de gens dans leur liste de visites, et ce que ça n'irait pas au-delà. Sur la question des produits problématiques, effectivement, on ne sait pas encore aujourd'hui. Moi, j'ai posé la question à des industries israéliennes qui sont à la pointe de ce qu'on appelle le contrôle biologique des parasites. On ne sait pas encore, en zone tropicale, faire de l'agriculture sans utiliser un certain nombre d'insecticides, de pesticides, en tout cas, à grande échelle. C'est une gestion des problèmes parasitaires beaucoup plus compliquée que dans les régions de climat tempéré. On essaye de faire des efforts sur plusieurs filières au Brésil. On a certainement encore des efforts à faire. Il y a aussi, sur les filières brésiliennes, des handicaps que les agriculteurs européens n'ont pas. Quand on regarde l'organisation logistique en Europe, pour atteindre par exemple les ports d'exportation, et quand on prend en compte les handicaps logistiques qui existent dans un pays comme le Brésil, qui sont considérables, et qui entraînent pour les agriculteurs au début de la chaîne, les producteurs de soja, de maïs et même de viande, des diminutions de prix considérables, puisque les prix sont formés sur les ports d'exportation, les coûts de transport ont une incidence sur les prix à la production absolument énorme, les handicaps des uns sont parfois compensés par les handicaps des autres.
Alors, on va revenir en Europe sur d'autres genres de produits. Le 22 août dernier, Place de la République, avait lieu à Paris, donc, une vente directe de fruits et de légumes à prix coûtant par les producteurs eux-mêmes, un événement annuel organisé par le syndicat agricole MODEF et des élus du Parti communiste français. Objectif, soutenir les agriculteurs français frappés ces derniers mois par la canicule et la sécheresse et lutter contre les importations massives de produits alimentaires. Reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Ariane Gaffuri, que nous retrouvons avec plaisir dans cette émission.
Voilà.
Des dizaines de cajots remplis de pommes, de prunes, de pêches, d'oignons sont empilés derrière des stands installés en U, place de la République. Derrière une pancarte du syndicat agricole le MODEF, où l'on peut lire « Grande distribution égale paysans exploités et consommateurs rackettés ». De quoi interpeller les passants qui en profitent pour faire des achats.
J'ai pris un melon et puis des pommes.
Je suis sûre que c'est des fruits de qualité, j'espère.
Et combien vous avez payé pour tout ça?
6 euros.
6 euros? Oui. C'est un juste prix?
Oui, ça va très bien.
J'ai acheté de la salade, des prunes, d'abord par solidarité, et aussi c'était vraiment pour réaliser la différence. Et effectivement, ben ouais, les prix sont là, hein. C'est fou, c'est plus que moitié prix. Et puis on sait ce qu'on achète, on a les origines.
4 euros, bien, on va pas hésiter à donner 4 euros.
Le prix coûtant, c'est le juste prix pour Élie, un jeune militant communiste venu prêter main forte à la vente.
Le prix juste pour le producteur, c'est des prix moins chers que ce qu'on trouve dans la grande distribution aujourd'hui. 3 euros les 2 kilos de pommes. C'est uniquement ce qui sert à l'agriculteur à produire ses pommes et à vivre, lui, au jour le jour. Mais ça ne sert à rien d'autre. Alors qu'aujourd'hui, voilà, 3 euros le kilo de pommes pour la grande surface, ça ne sert pas qu'à l'agriculteur. Ça sert, par exemple, à Leclerc, qui pourtant n'est pas à plaindre et qui fait partie des plus grosses fortunes de France. Ça sert à tous ces gens-là qui, eux, peuvent se nourrir, à mon avis, sans trop de problèmes à la fin du mois.
Le libre-échange est aussi un défi de taille pour le secteur agricole, sachant que près d'un fruit et légumes sur deux consommés en France est importé. Pierre Thomas est président du MODEF, la Confédération syndicale agricole des exploitants familiaux.
Aujourd'hui, nous sommes beaucoup concurrencés à la fois par des importations venant en dehors de l'Europe, mais y compris à l'intérieur de l'Europe, par des systèmes de production qui sont complètement différents des nôtres. Nous avons un certain nombre de normes qualitatives, on ne va pas rogner là-dessus. Par contre, les produits que nous apportons devraient avoir les mêmes normes de qualité, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il y a effectivement des prix qui sont plus bas, qui tirent les prix véritablement à la baisse. Parce que notamment avec le Mercosur, c'est les accords internationaux, notamment avec l'Amérique du Sud, on va avoir le soja qui va être produit dans l'Amazonie. Donc on va déforester pour produire le soja, pour venir engraisser nos porcs et notre volaille chez nous. On ne peut plus non plus importer de la viande de ces pays-là, produite avec des hormones, des antibiotiques, un certain nombre de choses comme ça. Donc c'est un système qui est incohérent et qu'il nous faut arrêter aujourd'hui.
Importer des produits qu'on ne trouve pas en France, comme les bananes ou l'ananas, Pierre Thomas n'est pas contre. Mais acheter des poires d'Afrique du Sud, c'est pour lui une aberration.
Merci, bonne journée, à l'année prochaine.
Un reportage signé Ariane Gaffuri. Thierry Pouche, est-ce qu'on mélange pas tout là? Est-ce que le soja brésilien cultivé dans la forêt amazonienne, Jean-Luc Carfontan nous en reparlera tout à l'heure, ça a quelque chose à voir avec les pommes ou les poires qu'on fait venir d'Espagne ou du Chili?
Non, pas vraiment, parce que il y a quand même plusieurs choses qu'il faut éclairer. D'abord, sur le secteur des fruits et légumes, quand même rappeler qu'en France, c'est un secteur qui, commercialement, est déficitaire depuis 40 ans. C'est-à-dire que depuis les années 70, on n'a jamais pu importer moins, on a importé davantage au gré des élargissements de l'Union européenne, par exemple, hein, mais c'était des accords, donc il fallait ouvrir le marché parce qu'il y avait des accords européens. Mais
est-ce qu'il faudrait pas arrêter de cultiver des fruits et des légumes en France et les laisser cultiver en Afrique ou en Amérique latine?
J'allais y venir, parce que dans cet ensemble qui est très déficitaire, vous en avez quand même quelques-uns qui s'en sortent. Les exportations de pommes sont extrêmement dynamiques et nous avons un secteur qui est excédentaire en termes de commerce extérieur. Les pommes de terre, c'est la même chose. Nous sommes sur un produit qui s'exporte très bien et on en importe finalement pas autant.
Est-ce que chaque pays ne devrait pas se spécialiser sur les produits sur lesquels il est bénéficiaire et sur lesquels il gagne de l'argent? J'évoquais tout à l'heure le Nigeria qui veut devenir autosuffisant en riz. Est-ce qu'il ne devrait pas laisser ça, faire ça aux Asiatiques, aux Vietnamiens, aux Thaïlandais qui sont... très bon spécialiste.
Là, on aborde un problème vraiment fondamental. Alors Monsieur Carfentan va dire que on va encore sombrer dans l'abstraction, mais au XIXe siècle, tous ces débats, parce que c'est le débat libre-échange, protectionnisme, c'est un débat très ancien. Déjà avec les physiocrates, on avait quelques éléments. Ils ont été contestés par d'autres sur l'ouverture de.
Bon, les physiocrates, c'était dans les années 1850.
Même avant, c'était au XVIIIe siècle, et c'était sur la problématique du commerce des grains, la fonction du commerce extérieur. On a toujours tendance à considérer qu'il faut exporter. C'est pas tout à fait ça la fonction du commerce extérieur. Un théoricien comme David Ricardo, à la question concrète qu'on lui posait, qu'est-ce qu'on fait avec nos produits, qu'est-ce qu'on exporte, qu'est-ce qu'on importe, il répondait par justement des éléments théoriques. Et il a montré que la fonction du commerce extérieur, c'était d'importer moins cher. Donc ces accords de libre-échange, dans la mesure où il y a des différentiels de compétitivité, je mets de côté pour l'instant les aspects qui ont été soulevés, notamment par la commission d'évaluation du CETA sur les aspects sanitaires et environnementaux, mais ces accords de libre-échange permettront sur un certain nombre de produits, alors le Mercosur, on a oublié de parler du sucre par exemple, on a oublié de parler de l'éthanol, le miel, il y a quand même des contingents importants.
Il faudra faire une autre émission.
Voilà, absolument. C'est aussi une façon pour l'Union européenne non seulement d'exporter des produits manufacturés, des produits de haute technologie, voire des services, mais en contrepartie d'importer des productions qui seront moins chères pour le consommateur européen. Donc c'est dans la logique de ce que nous enseigne la théorie économique dominante du commerce international, cette fonction-là, c'est importer moins cher, ce qui peut permettre de peser sur le pouvoir d'achat justement des consommateurs.
Frédéric Courleux, brièvement.
Pour compléter, effectivement, quand ces théories se sont bâties, on n'avait pas du tout la même conscience des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, le constat est que le niveau de spécialisation des différents continents est assez élevé et peut-être déjà trop. Ce serait une lapalissade que de dire que la monoculture, qui est la conséquence de la spécialisation géographique, n'est pas bonne pour la biodiversité. Donc on a besoin de retrouver des équilibres, notamment en Europe, en limitant notre dépendance à l'importation de ces protéines végétales, pour retrouver aussi un équilibre écologique dans nos campagnes.
Ça veut dire qu'il faudrait, par exemple, qu'on cultive du soja en Europe ?
Et qu'on cultive moins de céréales en Europe, effectivement, qu'on rééquilibre de ce côté-ci.
Jean-Yves Carfentan, je vous voyais réagir au reportage d'Ariane Gaffery quand on entendait un agriculteur ou un porte-parole du MODEF évoquer la culture du soja en Amazonie.
Et parce que Amazonie, dans le langage français, ça recoupe plein de choses différentes. Dans ce qu'on appelle le biome amazonien, c'est-à-dire l'espace naturel dominé principalement par de la forêt tropicale, ça représente à peu près 4,1 millions de kilomètres carrés, excusez du peu. C'est 49% du territoire brésilien. Cette année, on avait 2,5% de la surface plantée en soja. C'est-à-dire que le gros de la production de soja brésilienne se fait ailleurs. Et il existe depuis 2006 un moratoire extrêmement efficace qui amène les triturateurs, les collecteurs, les négociants à refuser l'achat de soja sur des terres récemment dévastées. J'ajoute que le soja en grain qui arrive en Europe, c'est un tout petit marché pour le Brésil. L'Europe importe essentiellement des tourteaux de soja, c'est-à-dire un sous-produit de la trituration. Le gros du marché du soja en grain pour le Brésil, c'est la Chine. Près de la moitié de la récolte nationale brésilienne est allée en 2018 en Chine. Monsieur Trump nous y a beaucoup aidés en engageant une guerre commerciale de très longue durée, apparemment, avec la Chine.
Le Brésil avait supplanté les États-Unis un peu avant la guerre commerciale, en tant que fournisseur de la Chine.
C'est le mot de la fin. Merci de cette précision. Thierry Pouche, merci d'avoir accepté l'invitation des RFI. À vous trois, Thierry Pouche, donc Frédéric Courleux et Jean-Yves Carfentan, qu'on vient d'entendre et qui nous éclaire de ses lumières sur la situation brésilienne et amazonienne. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, était réalisé par Stephen Elsley. Et vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.